Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Et ils l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve. Et ainsi tous les 7, ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus répond, « Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent, en effet, pour lui. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous sommes bien aujourd'hui, à en croire les sondages, à en croire les discussions que beaucoup peuvent avoir, que beaucoup nous pouvons avoir entre nous, il semble bien que nous soyons assez proches des Sadducéens, qui, quand même, la résurrection, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que nous croyons quand on nous dit que nous croyons en la résurrection des morts? Car enfin, notre corps, notre être s'en va en poussière. À quoi nous appelle le Seigneur? Et les Sadducéens se devant cette difficulté, et ici ils posent une question un peu piège, un peu embrouillée au point de vue de la loi, pour montrer quand même ce n'est pas très sérieux. Et souvent, avec nos arguments rationnels, nous arrivons aussi à dire, mais quand même, on ne voit pas très bien comment. Pourtant, nous continuons à parler de la résurrection. Et bien souvent, même la résurrection de Jésus, nous la comprenons trop d'une manière religieuse, mais vous savez, informe, sans trop savoir, un peu comme un déni de la, un peu comme un déni de la mort. Et souvent, la résurrection de Jésus, oui, Jésus est mort, mais c'est un peu pour atténuer cette mort, finalement, de Jésus, sans en voir toute la réalité, parce que finalement, il est vainqueur, finalement, il a gagné, alors la mort, c'est un mauvais moment à passer. Etc. Non, Jésus est mort. Ça, c'est la foi chrétienne, il est mort, il est vraiment mort. Et autour de lui, les apôtres ont bien le sentiment d'un échec. Et sa résurrection, ça ne va pas être le renversement des ennemis en les détrônant tout de suite. Hein? Non, il apparaît à ses amis. Et quand nous lisons attentivement les Écritures, nous voyons que la résurrection de Jésus, eh bien, comme le dit saint Jean, c'est au moment de sa mort qu'il existe, qu'il rentre en possession de sa gloire. Nous mettons des oppositions, il y a la mort et puis il y a la résurrection. Mais Jésus, il est vraiment le Fils de Dieu, il est vraiment, éclate sa gloire quand il donne sa vie, et c'est vraiment à ce moment-là que « Père, glorifie ton Fils », et que le Fils est glorifié. Et pourquoi ? Je le résumerai, il faudrait reprendre tous les récits de la Passion, que ce soit de saint Jean, que ce soit de tous les évangélistes, mais je le prendrai avec une seule phrase de saint Jean, qui est Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et pourtant, on l'a bien lié, on l'a bien entraîné, on l'a bien traîné devant pour le procès, on l'a même cloué de peur qu'il se détache de la croix. Et d'ailleurs, les Sadducéens n'ont pas manqué de dire au pied de la croix, « Si tu es le Fils de Dieu, descends, sauve-toi toi-même. » Et nous ne pouvons, il faut faire attention, nous ne pouvons pas être dans cette logique en pensant que justement, ben, il est le Fils de Dieu, alors il ressuscite comme pour annihiler la croix. Non. Mais dans la difficulté, dans la souffrance, dans ce destin de l'homme, eh bien, il est souverainement libre et il vient changer car il continue à être le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé, et il est libre et il peut se donner. Se donner pleinement ce que nous célébrons dans l'Eucharistie et ce que nous voulons vivre vraiment. Les apôtres, quand ils écrivent les Écritures, ils ne nous promettent pas, comme on a bien voulu faire croire qu'était un christianisme, ou peut-être notre christianisme pas assez réfléchi, en disant, oui, alors, et du coup on a dit c'est l'opium du peuple, parce que bon, c'est juste pour calmer. Non, pas du tout. Les apôtres nous disent bien, la terre, le terreau pour que se développe notre foi, c'est les épreuves, c'est les difficultés, celles de tout le monde. Mais nous sommes allés vivre d'une autre manière, avec ici espérance, avec, comme il est dit dans le verset juste précédent du passage de la deuxième aux Thessaloniciens que nous lisons, eh bien, il vous a appelé dès le commencement à posséder la gloire. Parce que dans tout notre chemin, tous nos chemins, nous sommes appelés à les passer debout, à les passer comme des sujets libres, conscients et aimants. Et même notre dernier moment, la mort, justement, nous sommes appelés à le vivre en nous donnant. Et non pas que notre mort nous soit ravie. C'est pour ça que l'Église insiste tellement sur cette dignité de respecter ces moments de la mort, pour qu'elle ne nous soit pas ravie, mais pour que nous puissions, eh bien, la vivre pleinement comme un acte libre. Saint Paul, pour prolonger cette, vous êtes appelés à posséder la gloire et donc, comme disait Jésus, à être les fils de la résurrection, nous invite pour vivre à deux attitudes. Je reprends ce qu'il disait juste dans notre texte que nous lisions aujourd'hui. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, vous console et vous affermisse dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous direz pour le bien. De quoi s'agit-il ? On nous dit qu'on a une consolation éternelle et en même temps il va nous consoler. Alors on l'a ou on ne l'a pas ? On la possède ou on ne la possède pas ? Eh bien justement, c'est tout ce chemin de notre vie. Nous avons déjà reçu une consolation éternelle. Quand nous regardons Jésus et que nous voyons qu'il a vaincu la mort, qu'il est resté fils alors qu'on voulait lui arracher sa prétention d'être fils de Dieu, eh bien, il a su l'être vraiment et donner sa vie vraiment. Et cette consolation, elle nous est donnée. Elle nous est donnée dans les sacrements, dans le baptême, dans le mariage, dans la confirmation, dans tous les sacrements que nous recevons, eh bien, elle nous est donnée, c'est marqué en nous. Mais en même temps, eh bien, elle est appelée à se développer. Et par cette consolation éternelle qui habite en nous, que nous recevons, que nous sommes appelés à contempler, que nous sommes appelés à recevoir, eh bien, nous pourrons petit à petit, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, nous pourrons petit à petit vraiment, eh bien, être consolés. C'est quoi la consolation ? Vous savez, le prophète Isaïe disait « Consolez, consolez mon peuple ». Quand on regarde en hébreu le mot « consoler », la racine, le premier sens, c'est, vous savez, quand on a un fardeau trop lourd, et on le dépose, et à ce moment-là, on fait « C'est ça la consolation. Hein ? Que nous puissions poser notre fardeau, que nous puissions, eh bien, vraiment, et c'est vraiment justement en le déposant et en recevant notre humanité, en recevant cette consolation du Seigneur, que nous allons pouvoir petit à petit, eh bien, avancer. Pour cela, saint Paul continue, il vous faut prier les uns pour les autres. Premièrement, parce que comme on vient de le voir, ce n'est pas une grâce qu'on s'attribue, c'est quelque chose que l'on reçoit. C'est quelque chose qu'on le va vivre dans ce lâcher-prise, parce que ce n'est pas une grâce qu'on produit parce que nous sommes plus forts que les autres. Non, on a plutôt le sens de notre faiblesse, mais on a ce sens de dire « Seigneur, sauve-moi ». Seigneur, et de mettre notre vie en dialogue, justement, avec cette consolation éternelle que le Seigneur nous a préparée depuis toute éternité. Hein? Mais nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Et on le sait, quand on a une mission difficile, quand on a un moment difficile, hein, eh bien, de savoir que d'autres prient pour nous, eh bien, cela, j'allais dire, nous donne des ailes et on a le sentiment que les autres sont comme des anges du Seigneur. Parce qu'on sent, on se sent soutenu, on se sent aidé. Et on sait que par la prière, cette prière qui non seulement des choses marmonnées, mais qui est une offrande, qui se mettre nous-mêmes face au Seigneur, pour ceux qui sont aux premières lignes, eh bien cela va faire monter, si vous voulez, tout le corps. Et c'est vraiment ce sens, eh bien, de cette prière, cette consolation, cette prière. Et la dernière chose qui nous est dit ici, qui est que nous... Le Seigneur fidèle, il vous affermira, c'est lui qui le fait, et il vous gardera du mauvais. C'est intéressant, ici ce que dit, c'est la fin de la prière de Jésus qu'il nous a donnée. Hein? Délivre-nous du mal, ne nous soumets pas, ne permets pas que nous soyons livrés au pouvoir de la tentation. Parce que les tentations, les épreuves, il y en a dans toutes nos vies, mais que nous ne soyons pas livrés à sa séduction, que nous ne soyons pas livrés à son pouvoir, et garde-nous du mal. Et ici, il met bien le mal qui est de voir notre vie sans la foi, de voir notre vie, eh bien, coupée de Dieu, coupée de sa source, coupée de nous-mêmes, coupée des autres, hein? Mais au contraire qu'il nous garde dans ce sens que le Seigneur nous donne cette grâce pour que nous puissions accomplir notre vie, pour que nous puissions accomplir dans notre vie, vivre pleinement du royaume des cieux qui nous est donné, parce que le Seigneur nous donne sa force, il nous donne sa grâce, il voit nos vies et nous sommes appelés à voir nos vies et la vie des autres avec son regard. Chacun d'entre nous, quel qu'il soit, quelle que soit son histoire, est appelé à porter du fruit. Et un fruit qui demeure, un fruit de gloire dans ce sens qui demeure, qui ne passe pas. Bien souvent nous ne connaissons pas, mais le Seigneur nous porte aussi dans sa prière. Et la parole ici, comme il dit, continue sa course dans nos cœurs, au milieu de nous, pour que nous puissions porter ses fruits. Eh bien, prions les uns pour les autres, pour ne pas vivre dans cette fausse idée de la résurrection qui nous est donnée, dont nous voulons vivre, dont l'Église, dans sa pédagogie, nous fait vivre chaque dimanche, mais que nous puissions vraiment être héritiers de cette gloire du Seigneur, qui dans nos vies concrètes, avec ses souffrances, avec ses difficultés, eh bien, nous aide, et que ces vies puissent porter ce fruit et être vraiment en communion, vivre cette... ce pourquoi nous sommes appelés, cette charité que le Seigneur nous donne. Demandons-le les uns pour les autres. Nous sommes souvent plus attentifs aux trébuchements, aux difficultés des uns et des autres. Sur ce chemin, ne pourrions-nous pas être ceux qui prient les uns pour les autres, qui nous soutenons? La charité, dit saint Paul, c'est vraiment de se supporter l'un l'autre, d'être des supports et non pas des pièges, pour les uns pour les autres, pour que nous puissions arriver au but. Amen.